Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne avec vous pour cette émission donc consacrée à l'université qui s'appelle Campus Lille Info, comme chaque mercredi entre 16h et 16h30. Aujourd'hui, nous allons parler de campus durable avec Sandrine Rousseau qui est vice-présidente de cette université Sciences et Technologies de Lille. Et donc c'est un projet nouveau, une réflexion sur l'engagement citoyen au cœur de l'université pour voir un peu comment le campus peut prendre une forme plus adaptée peut-être au public qui l'accueille. Voilà, Sandrine Rousseau, bonjour.
Bonjour.
Donc l'idée c'est ça en fait, c'est de donner un petit peu de vie citoyenne et de participation aux usagers de cette université.
Bah oui, c'est de dire que ce campus c'est en fait une ville, hein, puisqu'il y a plus de 20 000 personnes qui vont tous les jours ou plusieurs fois par semaine sur ce campus. Tous constatent des choses qui leur plaisent, qui ne leur plaisent pas. Et puis, on s'est quand même engagé aussi en tant qu'université à sortir du carbone, c'est-à-dire à avoir une université qui n'émet plus de carbone. Et la question, c'est comment on fait pour atteindre cet objectif, parce que ce n'est pas un objectif simple. Et donc, l'idée, c'est de demander à ces usagers du campus, d'après vous, comment on peut faire pour sortir du carbone et comment on peut faire pour que, du coup, cette sortie du carbone améliore le paysage sur le campus, améliore la vie sur le campus, améliore le confort, améliore et qu'on soit finalement fiers d'être sur un campus comme ça qui s'engage. Et même si les changements au début peuvent paraître un peu difficiles, et ben, à la fin, ça génère vraiment ce sentiment d'avoir participé à une forme de révolution douce.
Alors c'est vrai que le bilan carbone de chaque personne qui intervient sur ce campus est aussi lié à des contraintes externes et notamment des déplacements qui se font de points plus ou moins éloignés, voire d'endroits où ils vont se rendre. Là, on n'est pas dans ce cadre-là, on est sur le local.
Si on travaille aussi un petit peu sur les déplacements extérieurs, parce que si on veut être université zéro carbone, il faut prendre en compte que les chercheurs qui sont sur cette université, par exemple, se déplacent dans des colloques aux États-Unis, ailleurs, en Afrique, en Chine, etc. Et ces déplacements génèrent des émissions de carbone. Et si on veut sortir du carbone, il va falloir qu'on compense. Parce que ça, on n'imagine pas d'interdire à nos chercheurs, évidemment, d'aller dans des colloques. Donc, il va falloir trouver des compensations. Comment on fait pour que quand un chercheur fait un aller-retour Paris-New York, on puisse planter suffisamment de végétation ou payer à des personnes qui vivent ailleurs un équipement, un four par exemple, qui émet moins de carbone, ce qui fait que même si on a fait ce trajet Paris-New York, eh bien à la fin, grâce à cette compensation, on n'a pas augmenté la quantité de carbone dans l'atmosphère. Et ça, on travaille actuellement sur ce sujet.
Alors la visioconférence, ce n'est pas encore complètement la solution.
Bah sur les colloques, c'est difficile parce qu'il y a le temps de la présentation qui peut se faire en visioconférence. Mais on sait tous que les colloques sont aussi des lieux d'échange en dehors des présentations, dans les couloirs, et que ces échanges entre scientifiques peuvent être tout à fait riches et faire uniquement de la visioconférence sur les colloques, c'est se priver de cette richesse qui, à mon avis, est source de beaucoup de découvertes pour le coup.
Donc Sandrine Rousseau, on le rappelle, vous allez démarrer ce projet de réflexion, d'agora autour de ce campus durable avec plusieurs catégories de personnes. On va peut-être les préciser, voir ce que vous attendez de chacune de ces catégories.
Mais on appelle à toutes les personnes qui sont intéressées par la vie sur le campus, donc évidemment les étudiants en premier lieu, évidemment les personnels qui travaillent sur ce campus, mais aussi tous les usagers, c'est-à-dire toutes les personnes qui viennent sur ce campus et qui ont un intérêt à ce qu'il change, de venir discuter de ce qui serait pour eux les priorités et les actions à mener. Par exemple, si on se dit qu'on sort du carbone, il faut que, sans doute, que la mobilité sur le campus change. On peut pas. Mais en plus, il y a un truc de fond, c'est qu'on ne peut pas dire on est une université du 21e siècle et l'université est le lieu où on invente une manière de vivre nouvelle et future. Et puis qu'il y ait des voitures, par exemple, au pied de chaque bâtiment, probablement qu'il faut changer ça. Mais le problème, c'est comment on change ça ?
Alors j'ai vu récemment une voiture électrique dans cette université, même dans le bâtiment culture. Est-ce que c'est un signe ?
Oui, parce qu'on réfléchit, par exemple, mais encore une fois, il faut que cette agora se tienne. Alors, c'est le 7 novembre, entre midi et 2, à l'espace culture. Mais il y a des chercheurs qui travaillent sur une voiture électrique autoguidée, c'est-à-dire qui ne nécessite pas de chauffeur. Et on se dit, avec l'équipe de direction, mais il faut confronter ça et discuter de ça avec les usagers, que si on arrivait à faire de cet anneau Langevin, le fameux anneau Langevin qui détermine un peu la ceinture de ce campus, si on arrivait à faire de cet anneau Langevin une zone sur toute ou partie de cet anneau sans voiture, on pourrait y mettre des véhicules électriques qui, du coup, sans chauffeur, conduisent les gens des parkings du Grand Stade, qui sont quand même nombreux et vides, vers l'intérieur du campus, sans que ça coûte énormément à l'université. Et ça, en plus, c'est quelque chose qui pourrait être utilisé après dans les collectivités, dans les villes, dans les régions, ailleurs, dans d'autres entreprises. Et c'est ici que ça se crée. Il faut savoir que cette université, c'est elle qui a créé, c'est les chercheurs de cette université qui ont inventé le métro sans conducteur. Là, on est en train d'inventer la voiture électrique sans conducteur. Finalement, c'est l'étape d'après. Et il faut qu'on le teste sur notre université. Il faut que ce soit le lieu où ça se voit, quoi.
Voilà, donc on va dire qu'il est possible, voire même souhaitable, que l'interaction se fasse entre les chercheurs qui sont ici et les usagers qui deviendraient non pas les cobayes, mais qui participeraient à ces expériences de développement de nouvelles technologies.
Exactement. De nouvelles technologies et de nouvelles pratiques, parce que si on regarde, par exemple, les questions d'alimentation, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de demandes d'étudiants de mieux manger et de manger moins cher. Bon. Alors ça, c'est des demandes légitimes. Et puis on s'aperçoit que dans certaines villes ou dans certains campus, on tente des jardins partagés. C'est-à-dire qu'on crée des jardins et puis après, libre à chacun de venir prendre les fruits et les légumes qui y sont plantés, moyennant d'entretenir ce jardin régulièrement. Bon, ça, soit les étudiants le demandent et le souhaitent, soit c'est une demande forte et on le fait. Soit s'il n'y a pas de demande, alors ça va finir en carré non entretenu et ce ne sera pas la peine. Donc il faut vraiment qu'on discute de quel campus on veut ensemble. Et s'il y a suffisamment de bonne volonté, s'il y a suffisamment d'envie vraiment de tester des choses ici, eh bien alors je suis sûre qu'on peut faire de ce campus. Parce que notre campus, il est beau. Enfin, il est beau. Il y a des espaces verts, il y a de la place, il y a même une architecture qui, bon, évidemment, peut nous paraître moche sur certains bâtiments, mais qui sur d'autres sont très beaux. On voit bien que quand on construit un learning center, ça change complètement la nature de ce campus. Et on ne profite pas assez de ça. Il y a un potentiel et on n'en profite pas. Je donne un exemple, c'est que j'ai vu des travaux d'étudiants de M1, donc de quatrième année, de géographie, qui ont travaillé sur comment on pourrait faire de ce campus un autre lieu de vie avec des mobilités douces, donc sans voiture, mais avec des vélos, des trottinettes, etc. Et ces étudiants, donc il y a plusieurs groupes qui ont travaillé l'année dernière dessus, et ces étudiants proposent par exemple que toute la ligne de métro soit une espèce de voie de circulation à pied, mais avec des bancs, des tables pour manger. Et en fait, c'est un lieu qui est abrité de la pluie, puisqu'il y a cette ligne de métro au-dessus. Et c'est vrai qu'on n'en fait rien. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire dessous, parce qu'il y a plein de bosses, de parkings, de trucs. Et on se dit, mais si on utilisait cette voie couverte, on pourrait sans doute faire des choses très intéressantes.
Alors, c'est vrai que Sandrine Rousseau, personnellement, hein, pour aller de cette radio à la station de métro que je prends, hein, je suis presque un écolo, hein, je prends le métro. Parfois, je m'abritais quand il pleuvait, justement, sous cette ligne, puisque physiquement, elle protège effectivement de la pluie. Puis j'ai vu apparaître des parkings nouveaux, assez récents d'ailleurs. Je veux dire, c'est assez étonnant que ce ne soit pas déjà dans les pratiques.
Ah oui, mais c'est très difficile de sortir d'un modèle, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile, si vous voulez, de faire un parking en bas d'un bâtiment. Tout le monde est content, on garde sa voiture. Sauf qu'en fait, c'est une espèce de satisfaction, mais de très court terme, parce que oui, on est content de garer sa voiture au pied de sa porte. Du coup, on n'a pas de chemin à faire à pied. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit qu'on grossit, par exemple, parce qu'on ne fait plus de marche à pied. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit qu'on ne voit plus du tout de nature dans la journée, parce que finalement, on voit que du béton et des voitures garées dessus. Et puis, petit à petit, on se rend compte que ses enfants ont de l'asthme, parce qu'il y a des particules fines liées à l'usage de la voiture. Et puis, on se rend compte aussi à la fin que son porte-monnaie est sacrément grevé par le coût de la voiture, qui est un coût conséquent par mois. Et puis, oui, on a la satisfaction de s'être garé au pied de l'immeuble, indéniablement. Mais à quel prix global, quoi ? C'est-à-dire, pour, à la fin, pour obtenir quoi? Pour payer un abonnement dans une salle de gym pour reperdre les kilos qu'on aurait pu ne jamais avoir? Enfin, vous voyez, il y a quelque chose d'assez incohérent, en fait, dans la démarche d'ensemble. Et remettre de la cohérence dans un projet, c'est, et c'est le pari que nous faisons à la tête de cette université, c'est de se dire, remettre de la cohérence, c'est aussi remettre du sens à ce que c'est de faire des études, à ce que c'est de faire de la recherche, à ce que c'est qu'un campus universitaire et à quoi ça sert dans la cité.
Alors, je vois aussi maintenant que sont servis aux étudiants, en payant bien sûr, hein, des pizzas, des choses comme ça. On n'est pas complètement dans le développement durable, si?
Non seulement on n'est pas dans le développement durable, mais en plus quand on voit la quantité de déchets que ça génère, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on retrouve des cartons à pizza partout. Les poubelles débordent de cartons à pizza et d'emballages divers. Alors ça, c'est pareil, c'est pas possible, si vous voulez. Enfin, c'est pas possible qu'on dise, oui, on est une université d'excellence, on forme les gens pour qu'ils deviennent les inventeurs d'un monde de demain, et puis qu'on laisse des cartons à pizza souillés sur la pelouse. Enfin, vous voyez, c'est incohérent, tout ça est incohérent. Or, on pourrait imaginer, en partenariat avec le CROUS, d'avoir une toute autre politique alimentaire, qui soit une politique qui réduise les déchets, qui soit une politique qui fasse travailler les agriculteurs locaux et pas les agriculteurs d'Argentine ou les éleveurs d'Argentine qui font de la viande pas chère parce qu'elle est bourrée d'antibiotiques. On se dit qu'on pourrait quand même imaginer un autre moyen de se nourrir et qui soit pas plus cher pour l'étudiant, mais qui par contre favorise les circuits courts, donc un emploi local, et puis qui au final est de meilleure qualité pour tout le monde. Par exemple, le CROUS jette énormément de la nourriture qu'il produit. C'est-à-dire tous les jours, le CROUS fait des repas et jette énormément de nourriture. Pourquoi ? Bah parce que les gens prennent un plateau repas et qu'on pèse 40 kilos ou 150, bah finalement on a la même ration. Or, les gens n'ont pas besoin de manger forcément toujours la même chose. Et ça génère énormément de gaspillage, cette chose-là. Et ce gaspillage, quand on jette des haricots verts, des pommes de terre ou de la viande, il faut bien se rendre compte que derrière, on jette quelque part le travail de paysans, d'agriculteurs. Enfin, c'est pas anodin de jeter de la nourriture. Alors, je suis désolée, ça fait un peu réac de dire ça, parce que ça fait un peu, on revient aux années 50 et 60. Mais à la fin, c'est quand même du travail de personnes qu'on jette. Voilà.
En même temps, ce sont des personnes qui ont du travail aussi.
Oui, mais elle pourrait aussi en avoir dans des conditions qui seraient très différentes. Par exemple, aujourd'hui, on a une crise dans la production agricole. Mmh. Les agriculteurs, on le sait, sont une des premières professions en termes de suicide. Et ils se suicident, par exemple, pourquoi ? Bah, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, ils ont trop d'emprunts sur la... Et on se dit, mais si on passait un contrat avec les agriculteurs de la région pour dire, bah, on a besoin, nous, sur ce campus, on nourrit 20 000 personnes chaque jour, c'est énorme, on a besoin de tant de tonnes de carottes à l'année. Et bah, au lieu de vous payer au prix, au cours de la carotte internationale, dont on n'a rien à secouer, en fait, et bah, on va vous payer le prix de la carotte constant sur l'année. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un revenu sur l'année qui soit constant et qui ne bouge pas. Bah, ça améliore aussi la vie des agriculteurs de faire ça.
Alors, il y a quelques expériences qui existent au niveau des cantines, des restaurants scolaires, notamment dans les lycées et les collèges. Hein. Est-ce que ces expériences-là sont capables de fournir de nouveaux modèles ?
Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant avec ces expériences, c'est que en plus, ils ont besoin de nous pour aller encore plus loin, parce que pour créer des filières, c'est-à-dire pour faire vivre des agriculteurs de la région complètement sur de la restauration collective, que ce soit en collège, en lycée ou à l'université, pour que ces agriculteurs vivent, eh bien, il faut que on soit nombreux à leur commander des produits. Et un collège tout seul, ça suffit pas. Un lycée tout seul, ça suffit pas. Par contre, si on a tous les collèges, tous les lycées et tous les restaurants universitaires, alors là, il y a de quoi faire vivre réellement et confortablement, enfin bien, correctement, les personnes qui produisent la nourriture. Donc je me dis, mais vous voyez que si on réfléchit pas à ça, on passe à côté de plein d'enjeux sociaux actuels. Et finalement, notre rôle d'université, c'est aussi de prendre ces enjeux sociaux, de les prendre à bras le corps et de participer à leur changement.
Voilà, donc une réflexion générale pour un développement harmonieux global.
Exactement, des solutions locales pour résoudre des problèmes globaux.
Donc on fait appel très prochainement à ces personnes qui sont sur l'université.
Oui, alors c'est le 7 novembre, espace culture, de 12h à 14h. Et j'invite vraiment toutes les personnes à venir, que vous ayez du temps, que vous n'ayez pas de temps, que vous ayez des idées ou que vous n'en ayez pas, que vous veniez souvent ou que vous veniez rarement. Venez quand même discuter avec nous de ce qu'on peut faire de ce campus, parce que c'est notre affaire à tous. Moi, j'ai pas toutes les idées dans la tête, et puis ça se trouve, mais les idées que j'ai dans la tête, elles sont pas bonnes. Mais par contre, je suis sûre d'une chose, c'est que si on est beaucoup à se mettre à l'ouvrage, alors je suis sûre qu'en un temps très court, on peut vraiment transformer ce campus, et en plus, transformer ce campus en mieux, quoi. En vraiment quelque chose de beau, où on est content de venir.
Donc, vous attendez du monde, j'imagine, avec évidemment des questions qui vont partir un peu dans tous les sens. On imagine des problèmes liés à la structure de ce fonctionnement de l'université, mais aussi des problèmes ponctuels. À un moment donné, il y a un match ou peu importe, et d'un seul coup, c'est un peu l'effervescence. Mmh. Et aussi tout le contrôle des personnes, qu'ils soient par caméra ou éventuellement autrement dans différents lieux, par rapport à la sécurité. Enfin, tous ces problèmes-là, il y a des problèmes anciens et des problèmes nouveaux qui apparaissent.
Oui, et l'idée, c'est de venir avec les problèmes que l'on a constatés et de proposer des bouts de solutions. Parce que faire la liste des problèmes, ça, on sait le faire. Enfin, je n'ai pas connaissance de tous les problèmes qui existent sur le campus, mais je pense que faire une liste de problèmes, on peut le faire. La question, c'est que moi, je n'ai pas les solutions à ces problèmes et je n'ai pas toutes les solutions à ces problèmes. Et quand bien même je les aurais, je ne peux pas le faire seule.
Alors, j'imagine qu'au sein de cette université, voire dans d'autres universités qui vont faire partie de cette grande université de Lille, il y a des gens qui sont chargés de l'urbanisme, qui font des études, qui organisent des études dans ces domaines-là, ou aussi sur le développement durable, sur des solutions scientifiques à apporter à des problèmes techniques. Tous ces gens-là, on peut les mobiliser par la suite.
Ah ben, j'espère bien qu'on pourra les mobiliser, parce que quand on regarde un peu, enfin, depuis que j'ai été élue, donc c'était avant les vacances, là, au mois de mai-juin, j'observe, enfin, je lis beaucoup de choses, et en fait, je suis tout à fait étonnée de la quantité de travaux qui existent sur cette université. Il y a énormément de recherches, il y a énormément de travaux d'étudiants, et des travaux d'une qualité, mais incroyable. Enfin, quelque part, on n'a rien à inventer. Les gens ont déjà travaillé nombreux sur ces questions. Mais par contre, on a à mettre en œuvre.
Et en phase.
Et à choisir déjà. Choisir. Mmh. Et choisir, c'est éliminer. Mais voilà, choisir ce que l'on veut. Et mettre en œuvre et mettre en phase. Et faire de ça un projet cohérent. Et donc, on a de la matière. On a vraiment des travaux de très grande qualité. Mais maintenant, il faut la volonté politique. Il faut la volonté des gens. Et puis, il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'on fait.
Alors, on peut aussi parler du statut de ces personnes qui sont sur l'université. Il y a les personnels, qu'ils soient chercheurs, enseignants ou techniques, et puis, ou administratifs. Et puis, il y a aussi des étudiants. Parmi ces étudiants, certains résident sur l'université, d'autres sont à l'extérieur. Pour chacun, finalement, les problèmes sont un peu différents.
Oui. Il y a des gens qui résident ici et qui y passent même toutes les vacances. Et donc, pour eux, la problématique n'est pas tout à fait la même que pour des chercheurs en astrophysique, par exemple, pour lesquels probablement que la pollution lumineuse sera un problème majeur. L'idée, c'est de faire un campus qui soit agréable pour tout le monde. Enfin, moi, j'ai été très impressionnée. Alors, c'est peut-être pas politiquement correct de dire ça, mais j'ai quand même été très impressionnée par les campus du nord de l'Europe et les campus du nord des États-Unis, des nord de l'Amérique, Canada en particulier, où c'était des campus non seulement agréables, mais en plus où il y avait une espèce de non-stress sur ces campus et une forme d'effervescence où les gens étaient tous, dont l'énergie des gens était vraiment mobilisée à inventer des choses utiles. Et je trouve que sur le campus de Lille 1, on perd de cette énergie qui pourrait être utilisée là-dedans. Et finalement, le fait qu'on ne bénéficie pas d'un campus où ce type d'énergie est canalisée et productive et où on ne profite pas de cette énergie, eh ben, on perd vraiment beaucoup de richesses. Par exemple, les travaux de ces étudiants qui ont vraiment travaillé en détail sur ce qu'on pourrait faire sur le campus en termes d'aménagement. Ce sont des étudiants de géographie. On pourrait le laisser dans un placard et ils auraient eu une note, voilà, et ça leur aurait peut-être permis d'avoir un travail après, mais on peut faire beaucoup mieux avec ce travail. Et ça peut être beaucoup plus utile à la collectivité.
Alors, au cas où je ne pourrais pas, Sandrine Rousseau, être présente ce jour-là, on rappelle la date et le lieu.
Le 7 novembre, espace culture de 12h à 14h.
Voilà, donc je vous propose une idée. En fait, en Chine, cette année-là, j'ai vu au bord d'une université, une très grande université, il y a beaucoup de monde hein, dans les universités là-bas, un endroit sur la route qui indiquait les degrés de pollution avec les différents types de composants. Et donc, je me suis dit que c'était pas mal que les étudiants... où la population soit au courant à un endroit donné de ce qui s'y passe en termes de pollution et après adapte son comportement, par exemple pour les activités sportives ou autre chose, ceux qui font du vélo ou pas, ou même le sport à l'université. Je pense que ça existe ici sur l'île.
Alors il existe des choses mais qui sont sur les toits des bâtiments réservés aux chercheurs, mais par exemple ça c'est une idée très très bonne de dire ben, on va faire plusieurs points sur le campus où on montre et on indique le niveau de pollution parce que c'est une information qui est importante pour les gens.
Ça le devient, hein,
bien sûr, bien sûr. Et ça, par exemple, vous voyez, elle ne veut pas émerger encore cette idée-là. Donc voilà, des idées comme ça, mais venez. Et puis après, je ne vous promets pas qu'on les réalisera toutes parce que je ne suis pas magicienne, mais je vous promets en tous les cas que toute mon énergie sera employée à ce qu'elle voit le jour.
Bon, c'est une bonne idée. Mais déjà, dans les écoles primaires, j'ai vu un jour dans la région ici des élèves avec leurs professeurs qui vont dans une ville et qui analysent la pollution dans plusieurs quartiers et qui définissent après, voilà, ils font une petite carte de la ville et je ne vais pas dire qu'ils donnent ça forcément aux gens, mais ça peut quand même donner des idées à des personnes dans une ville où on peut habiter ou pas selon son degré de maladie quelque part, parce que certains sont sensibles. Je vois que sur l'île, par exemple, il y a des gens qui sont sensibles aux choses qui se baladent dans l'air, ils éternuent, ils toussent à partir d'un certain moment. Je ne vois pas trop la solution, mais je vois les problèmes.
Voilà. Oui, mais ça, par exemple, les problèmes d'allergie sont très augmentés par les niveaux de pollution. On le sait, c'est-à-dire que l'allergie en soi n'est pas liée forcément à la pollution, encore que les chercheurs se débattent avec ce problème. Mais une chose est sûre, c'est que les allergies sont augmentées, sont aggravées en cas de pollution. Là, on voit bien qu'on a un rôle à jouer, parce que évidemment que sur les 20 000 usagers de ce campus, une grande partie est allergique, probablement la moitié connaît des allergies à des degrés divers. Et donc, protéger ces gens des allergies, c'est un phénomène de santé publique, c'est indispensable. Voilà,
quelques pistes, mais il y en aura bien d'autres au cours de cette journée, et donc n'hésitez pas. Il y a de la place pour accueillir combien de personnes ?
Alors il y a de la place, c'est l'amphi de l'espace culture, mais s'il y a trop de monde, eh bien on fera 2 salles, 3 salles, enfin venez nombreux, on se débrouillera toujours.
On rappelle la date.
Le 7 novembre de 12h à 14h, espace culture.
Merci Sandrine Rousseau, très bonne rentrée alors.
Merci.